3. Le sentier était en bon état. Une grosse quantité de cailloux s'était effondrée avec la secousse, et la progression fut difficile pour les hommes portant les cercles. Mais en un sens, la voie était plus praticable qu'auparavant. Le tremblement de terre avait délogé le rocher géant qui obstruait le passage, non loin du sommet. Eddie se pencha pour jeter un œil et l'aperçut au loin, en contrebas, brisé en deux. Le centre en était constitué de matières plus légères et scintillantes, qui donnaient au rocher l'air du plus gros œuf dur du monde. La grotte était toujours là, même si un gros tas d'astragales en bloquait l'accès. Eddie se joignit aux quelques jeunes manis qui dégageaient la voie, faisant voler par-dessus bord des éclats de schiste argileux, dans lesquels miroitaient çà et là des rubis, comme des gouttes de sang. En apercevant enfin l'entrée de la grotte, Eddie sentit se desserrer un peu le poing refermé sur son cœur. Mais le silence qui régnait à l'intérieur ne lui inspira rien de bon, alors que tout ce bavardage infernal l'avait presque rendu fou au cours de sa dernière visite. Depuis les profondeurs du gouffre montait la plainte stridente d'un courant d'air, rien de plus. Où était son frère Henry? Normalement, Henry aurait dû être en train de répéter pour la énième fois que les messieurs de Balazar l'avaient tué et que tout ça, c'était la faute d'Eddie. Et où était sa ma, donnant raison à Henry d'une voix tout aussi géniarde? Où était Margaret Eisenhart, se plaignant auprès d'Enchik, son grand-père, d'avoir été marqué du fer rouge des oublieux, puis abandonné par les siens? Bien avant de devenir la grotte de la porte, cet endroit avait été la grotte des voix. Pourtant, les voix s'étaient tues. Quant à la porte, elle avait l'air stupide, fut le premier mot qui vint à l'esprit d'Eddie. Le second fut dérisoire. Il fut un temps où tout dans cette grotte provenait des voix d'en dessous, et ce qui l'avait rendue si effroyable et si mystérieuse, c'était cette boule de cristal, la 13e noire, qui était arrivée à la cala par cette porte. Mais à présent qu'elle est repartie par cette même voie, ce n'est plus qu'une vieille porte qui ne... Eddie essaya de museler cette pensée, mais n'y parvint pas. Qui ne mène plus nulle part. Dégoûté par ce flot soudain de larmes qui lui montait aux yeux, mais incapable de le refouler, il se tourna vers Enchik. « Il ne reste aucune magie ici, » dit-il d'une voix harassée de désespoir. « Il n'y a plus rien derrière cette putain de porte. » Rien d'autre que l'air rance et les pierres effondrées. Vous êtes un idiot, et j'en suis un autre. » On entendit des exclamations de stupéfaction. Pourtant, Enchik posa sur Eddie un regard qui pétillait presque.
« Lewis, Tony !»
lança-t-il sur un ton presque jovial.
« Apportez-moi le cercle de Brani. »
Deux jeunes gaillards portant le bouc et des cheveux longs tirés en arrière s'avancèrent, portant un coffre de bois de fer d'environ 1,50 m de long et très lourd, vu la façon dont ils tenaient les montants en bois. Ils le posèrent aux pieds d'Enchik.
« Ouvrez-le, Eddie de New York !»
Tony et Lewis le dévisagèrent, l'air interrogateur et un peu effrayé. Eddie constata que les manis plus âgés le considéraient avec une sorte d'avidité. Il devait falloir quelques années pour se retrouver pleinement investi de cette somptueuse étrangeté si propre aux manis. Avec le temps, Lewis et Tony en seraient finalement dotés, mais pour l'instant, il n'en était encore qu'au stade du bizarre. Enshi cocha la tête avec un soupçon d'impatience. Eddie se baissa pour ouvrir le coffre, ce qui ne fut pas difficile. Il n'était pas verrouillé. À l'intérieur se trouvait un morceau de soie. Enshi clota d'un geste emphatique de magicien, révélant un pendule de plomb au bout d'une chaîne. L'objet rappela à Eddie une toupie ancienne pour bébé, et il était loin d'être aussi gros qu'il l'avait pensé. Il devait mesurer à peine 40 centimètres, depuis la pointe jusqu'à la partie ventrue, taillée dans un bois jaunâtre à l'air graisseux. Il pendait au bout d'une chaîne en argent, enroulée autour d'une cheville en cristal, vissée dans le couvercle du cercle.
« Sortez-le !» suggéra Enshik.
Et lorsqu'Eddie adressa un regard à Roland, la moustache blanche du vieil homme s'écarta et dévoila une série de dents étincelantes, parfaitement alignées en un sourire d'un cynisme stupéfiant.
« Pourquoi regardes-tu ton Dean, jeune pleurnichard ? La magie a disparu de cet endroit, tu l'as dit toi-même. Et tu dois bien le savoir, n'est-il pas ? Tu dois bien avoir dans les, disons, 25 ans. »
Il y eut de petits gloussements en provenance des manies, assez proches pour avoir entendu cette pique, et dont plusieurs n'avaient pas 25 ans eux-mêmes. Fou de rage contre ce vieux salaud, et contre lui-même aussi, Eddie tendit la main vers le coffre. Enshik la lui attrapa.
« Ne touche pas le pendule lui-même. Pas si tu veux garder tes couilles d'un côté et ta merde de l'autre. Par la chaîne, tu intuites ?»
Eddie faillit bien s'emparer quand même du pendule. Il s'était déjà ridiculisé aux yeux de ces gens. Il ne voyait vraiment aucune raison de ne pas finir le boulot. Mais en croisant le regard gris et profond de Jake, il changea d'avis. Le vent soufflait fort autour d'eux, glaçant la sueur qui formait un voile sur sa peau, le faisant frissonner. Eddie se pencha de nouveau vers le coffre, saisit la chaîne et la déroula avec précaution.
« Sortez-le !» fit Enshik.
Qu'est-ce qui va se passer ?
Enshik hocha la tête, comme si Eddie se décidait enfin à dire des choses sensées.
« C'est ce qu'on va voir. Soulevez-le. »
Eddie s'exécuta. Vu l'effort que les deux jeunes gaillards avaient dû produire pour porter le coffre, il fut stupéfait de trouver le pendule si léger. Il eut l'impression de soulever une plume qu'on aurait attachée au bout d'une fine chaîne d'1,50 m de long. Il enroula la chaîne autour de ses doigts et leva la main à hauteur de ses yeux. Il avait un peu l'air d'un marionnettiste sur le point de commencer son spectacle. Eddie était à deux doigts de demander encore une fois à Enshik ce qu'il était censé se passer, quand le pendule se mit à osciller lentement d'avant en arrière, décrivant de petits arcs de cercle.
« Ce n'est pas moi qui fais ça !» dit le jeune homme. « Du moins, je ne crois pas. Ce doit être le vent !»«
Je ne vois pas comment !» intervint Callahan. « Aucune chance que... »
Chut ! Lança Cantab en lançant un regard tellement sévère que Callahan se tut effectivement. Eddie se tenait debout devant l'entrée de la grotte, avec à ses pieds tout le pays des Arroyos et la plus grande partie de Calabrinstergis. Au loin, nimbé de bleu gris et plongé dans ses songes, s'étendait la forêt qu'ils avaient traversée pour arriver jusqu'ici. Dernier vestige de l'antre de monde, où ils ne retourneraient jamais. Le vent soufflait en rafale, lui soulevant les cheveux du front et les plaquant en arrière. Et soudain, il entendit comme un bourdonnement. Sauf que non. Le bourdonnement venait du creux de sa main, celle levée devant ses yeux, avec la chaîne enroulée autour de ses doigts tendus. Il venait de son bras, et surtout, il venait de sa tête. À l'extrémité de la chaîne, approximativement à la hauteur du genou droit d'Eddie, le balancement du pendule se fit plus prononcé, un large arc de cercle. Eddie se rendit compte d'une chose étrange. Chaque fois que le pendule arrivait en bout de course d'un côté, il se faisait plus lourd. C'était comme porter un objet attiré par une force centrifuge extraordinaire. L'arc se fit de plus en plus long, le pendule de plus en plus rapide, la tension en fin de course de plus en plus forte, puis soudain...
« Eddie !»
cria Jake, pris entre l'inquiétude et le ravissement.
« T'as vu ça ?»
Effectivement qu'il avait vu. À la fin de chaque arc, le pendule devenait dîme. Le poids tirant le bras du jeune homme vers le bas, le poids du pendule se fit de plus en plus important. Il lui fallut soutenir son avant-bras droit à l'aide de sa main gauche pour maintenir son emprise. Et à présent, il accompagnait des hanches le mouvement de balancier. Eddie se rappela tout à coup où il se trouvait, grosso modo à 200 mètres au-dessus du sol. Ce bébé-là allait bientôt l'embarquer par-dessus bord si on ne l'arrêtait pas. Et s'il n'arrivait pas à dérouler la chaîne de sa main, le pendule de plomb se déporta vers la droite, dessinant dans l'air les contours d'un sourire invisible, gagnant en pesanteur à mesure qu'il remontait vers la pointe. Tout à coup, le morceau de bois chétif qu'il avait extrait de son coffre avec tant d'aisance semblait peser ses 30, 40, 50 kilos. Et lorsqu'il s'immobilisa au bout de son arc, en équilibre pour une seconde entre mouvement et gravité, Eddie se rendit compte qu'il voyait la route de l'Est à travers, non seulement clairement, mais grossi. Puis le pendule de Brani amorça sa redescente, piquant vers le bas, de moins en moins lourd. Et lorsqu'il redémarra, cette fois vers la gauche...
« Ça va, j'ai compris le principe !» cria Eddie. « Retirez-moi ça, Enchik, ou au moins, arrêtez-le !»
Enchik ne prononça qu'un mot, tellement guttural qu'on aurait dit qu'on extirpait violemment quelque chose de la vase. Au lieu de ralentir en une série d'arcs plus courts, le pendule s'immobilisa instantanément, au niveau du genou d'Eddie, pointant vers son pied. L'espace d'une seconde, le bourdonnement dans son bras et dans sa tête subsista. Puis il se tut lui aussi. Et à la même seconde, Eddie sentit s'envoler ce poids dérangeant au bout de sa main. Ce foutu truc ne pesait à nouveau pas plus lourd qu'une plume.
« As-tu quelque chose à me dire, Eddie de New York ?»
demanda Enchik.
« Ouais, j'implore votre pardon. »
On aperçut de nouveau brièvement les dents d'Enchik. Éclat furtif au milieu de la forêt vierge de sa barbe, aussitôt disparue.
Tu n'as pas l'esprit si lent que cela, n'est-ce pas ?
J'espère que non,
répondit le jeune homme, et il ne put s'empêcher de pousser un petit soupir de soulagement lorsqu'Enchik des manies lui prit la fine chaîne des mains.